Ce 28 mars, c'est la fête de, encore de plusieurs saints et bienheureux, et en particulier de deux laïcs. Bien oui, c'est rare qu'il y ait des laïcs, on dit toujours, oh, il n'y a pas de laïcs qui ont été canonisés. Bien, ben voilà un, Saint Gontran, un roi, bon d'accord, un roi, mais un roi qui dont la vie était difficile. On peut le comparer au roi David, il a commis bien des erreurs, c'est un pécheur, un grand pécheur, et pourtant c'est un saint. C'est consolant pour plusieurs d'entre nous, Saint Gontran qui est mort il y a bien longtemps, en 593. Mais vous allez voir, c'est intéressant, très intéressant. Et c'est un moment de l'histoire qui peut intéresser la plupart d'entre vous. C'est aussi la fête de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé, qui est morte il y a bien moins longtemps, une veuve qui est morte en 1414. Et elle a vécu à Tours, ça peut intéresser plusieurs d'entre nous, surtout les Québécois d'origine française, car nos familles viennent en bonne partie de ces régions, de la Touraine, des environs de la Normandie, etc. Et alors à Tours, eh bien, il y a aussi venu la Marie de l'Incarnation que nous allons célébrer à la fin du mois d'avril, le dernier jour du mois d'avril, cette grande bienheureuse de Québec. C'est aussi la fête, je le signale en passant, d'un abbé anglais, ou plutôt du nord de l'Irlande, Saint-Gélas, qui est mort en 1174. Il y a aussi Honorine, si vous avez des Honorines dans vos ancêtres, c'est la fête aujourd'hui, une martyre du IVe siècle. Il y a un Jean de Lycopolis, un ermite en Égypte, un copte. Bien oui, un copte. Vous savez que copte, ça vient de Égyptos. Ça veut dire égyptien, copte. Ce sont les descendants des anciens Égyptiens, les coptes chrétiens qu'on voit aujourd'hui et qui ont eu tant à souffrir à certains moments de la présence musulmane. Je le dis sans attaquer les musulmans, mais je le dis en tout respect pour les coptes. Une grande admiration pour cette église malheureusement séparée de nous depuis près de 1500 ans et dont une partie des coptes s'est heureusement réunie à nous, catholiques. Et nous avons donc dans l'Église catholique des coptes catholiques avec leur liturgie, leur tradition, leur patriarche, etc. C'est aussi la fête d'un saint Matthieu et d'un... l'apôtre, évidemment, c'est un martyr, celui-là, et de Rupert de Salzbourg, de Spes, autrefois, il y avait Jean de Capistran aussi. Il a été changé au 23 octobre. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc avec un roi, après tout. Les rois sont habitués de passer devant tout le monde, alors on va le laisser passer. Saint Gontran, mort en 593. Je vous ai dit que c'était un laïc et un pécheur assez endurci qui tout à coup change de vie. C'est une belle vie. C'est loin d'être édifiant. C'est pas de tout repos au début. Mais vous allez voir, c'est un peu comme Charles de Foucault, dont je vous ai déjà parlé, qui s'est converti à la fin du siècle dernier et qui était vraiment un personnage abominable, horrible, horrible dans sa richesse, et qui est devenu ce grand ermite et cet homme merveilleux, assassiné au cours de la première grande guerre, dans le Hoggar, en Afrique du Nord, où il était ermite et un prêtre admirable, qui a eu une influence énorme sur le XXe siècle. Combien de prêtres aujourd'hui et de laïcs, par milliers et milliers, suivre son inspiration. Il y a des religieux, des religieuses aussi, les frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, etc., qu'on appelle souvent les frères de Foucault, justement, et les sœurs de Foucault. Donc, je reviens à Saint Gontran, qui s'est repenti profondément de ses fautes. Il a posé des gestes franchement louables qui ont contribué à assurer sa mémoire dans de nombreux pays et à travers l'histoire de l'Église. Et c'était pas n'importe qui que ce Saint Gontran. Il est né en 525. C'était le fils du roi des Francs. On dirait aujourd'hui le roi des Français, mais c'était pas encore les Français proprement dit, on dit les Francs. Donc le fils de Clotaire Ier, il était depuis le petit-fils du fameux Clovis et de la merveilleuse Sainte Clotilde, c'était sa grand-mère, Sainte Clotilde, la reine de France, qui est morte en l'an 545, quand notre Gontran avait 20 ans. Il a donc très bien connu Sainte Clotilde, sa grand-mère, qui est fêtée le 3 juin. Il a pour frère trois personnages aux noms les plus étranges. Alors, si vous cherchez des noms étranges pour vos enfants, là, c'est le temps de prendre des notes. Charibert, oui, Charibert, C-H-A-R-I-B-E-R-T. Sigebert, S-I-G-E-B-E-R-T. Et Chilpéric, C-H-I-L-P-A-R-I-C. Donc, Charibert, Sigebert et Chilpéric sont ses frères. Heureusement, lui, il s'appelle Gontran, c'est un nom moins terrible. Mais il partage avec eux les états que son père, Clotaire Ier, leur a légués. Alors lui, il en partage le royaume d'Orléans, où habitaient de nombreux ancêtres du peuple du Québec, le peuple d'origine, là. Et c'est à Orléans, d'ailleurs, qu'on retrouve Jeanne d'Arc, beaucoup plus tard. Hein. Et il a aussi la Bourgogne. Oui, la Bourgogne. Et il établit sa résidence, justement, à Chalon-sur-Saône. Mais comme époux, il n'est pas très chanceux. Ni même comme père. Bien qu'il soit riche et puissant, c'est pas la richesse, la puissance, le pouvoir qui donne le bonheur matrimonial. Il s'unit d'ailleurs de façon assez curieuse, tout d'abord avec une de ses servantes, qui a encore un nom assez joli, elle, Vénérande. Elle a un fils de lui, Gondebaud, G-O-N-D-E-B-A-U-D, Gondebaud, qui meurt jeune et empoisonné. Alors le pauvre homme, le pauvre roi, perd son fils empoisonné. Et sa femme meurt. Il épouse ensuite une autre servante, Marestrude. Vous allez me dire que ce sont des noms absolument bracadabrants. Marestrude, M-A-R-E-S-T-R-U-D-E, Marestrude. Elle a un fils qui meurt, lui aussi, en bas âge. Les enfants mouraient souvent en bas âge. Et puis, elle aussi, elle meurt bientôt. Alors, finalement, il est deux fois veuf, et deux fois, il perd ses enfants. Alors, il contracte un troisième mariage avec une autre servante, ce qui scandalise assez beaucoup de gens, qui s'appelle celle-là, oh là là, Ostrechild. Alors, il a deux fils de cette femme, Clotaire et Clodomir. Je me souviens d'avoir déjà vu un Clodomir au Québec. Ça avait été utilisé comme prénom. Et Clotaire, on voyait ça de temps en temps autrefois. Alors, Clotaire va vivre 10 ans. Et Clodomir, lui, meurt à 4 ans. C'est donc dire que notre saint roi Gontran, qui n'est pas encore saint, après 3 mariages successifs, se trouve sans enfant, sans héritier, il est seul au monde. Un de ses frères, le frère aîné, Charibert, meurt en 567. Ça lui donne à Gontran une part dans le royaume de Charibert. Comme on peut en juger par ses mariages successifs là, avec des servantes, Les mœurs, si vous préférez, de Gontran, ça valait pas mieux que ceux de ses frères. Hein. Cependant, il conserve toujours une espèce de pureté de sa foi. Et il se laisse pas atteindre par les hérésies qui courent à l'époque. Car toujours au cours de l'histoire de l'Église catholique, il y a eu des hérésies. Hein. Toutes sortes de gens qui préfèrent croire ce qu'ils croient devoir croire ou qui préfère croire autre chose que ce que l'Église enseigne. Pourtant, c'est elle qui a le dépôt, hein. Ça lui a été confié. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, Saint Gontran, ou Gontran si vous préférez, demeure en dehors des luttes qui ensanglantent les royaumes de ses frères. On le voit d'ailleurs qui recourt à des conciles, oui, il organise des conciles, parce qu'il compte sur les évêques pour inspirer à ces sujets qui sont souvent un peu barbares, un peu spéciaux, hein. Alors, il inspire à ses peuples un plus grand respect grâce à l'intervention de ses conciles et de ses évêques. Par exemple, dans un différend qu'il a avec son autre frère, son deuxième frère, Sigebert, il demande à un nouveau concile de se prononcer en 573, et ça réussit. À la mort de Sigebert, ce frère qu'il a, Gontran adopte son neveu, Childebert, et il dit « À cause de mes péchés, je suis demeuré sans enfant. Je demande donc que ce neveu, Childebert, devienne mon fils. Il a 52 ans à ce moment-là. C'est en 577. Alors, il devient père adoptif. Il est supplanté un instant par son jeune frère Chilpéric, le troisième, là, qui s'empare plus ou moins de la tutelle de son fils adoptif, Childebert. Il lui arrache Childebert, plus ou moins. Et Gontran voit bientôt Childebert se rapprocher de lui quand même. Puis son frère, Chilpéric, est assassiné. Alors le roi de Bourgogne, Gontran, notre saint Gontran, répond à l'appel de sa belle-sœur Frédégonde, qui demande son assistance parce que, comme elle est femme, elle a peur que son royaume se révolte et puis que l'héritage tombe pas entre les mains de son fils, le jeune Clotaire II. Alors, elle demande donc l'aide de son beau-frère Saint-Gontran. Comme il est bienveillant, lui, envers tous, il a bon cœur, hein? Alors, il répare les violences qu'avait commises son frère Chilpéric. Puis il donne de nombreux biens aux églises pour obtenir les grâces de Dieu, pour obtenir la paix. Il déclare même valables des testaments qu'avaient fait des gens riches, qui cédaient des terres aux évêchés et aux monastères. Mais tout ça va jouer un mauvais tour à un moment à l'Église. L'Église deviendra trop riche. Mais par contre, il distribue aux pauvres de grands dons. Il leur fait de très grandes largesses. Alors, il calme donc tout le peuple, et le peuple de sa belle-sœur, Frédégonde, accepte d'être le sujet de son jeune fils, Clotaire II. Vient, à un moment donné, une révolte très particulière. Saint Gontran avait un demi-frère, un bâtard, que son père, Clotaire Ier avait mis au monde, et qui s'appelait Gondovald. Et la révolte de Gondovald amène un rapprochement donc entre Saint Gontran et Childebert pour la troisième fois. Là, Gontran adopte, on peut dire, son neveu pour la troisième fois. Et il devient vraiment son fils adoptif et son héritier, le déclare héritier. Dans la révolte des seigneurs austrasiens, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, les seigneurs austrasiens? C'était des seigneurs qui régnaient, disons, dans le nord-est de la France. Leur capitale était Metz. C'était l'Austrasie, ça s'appelait comme ça, l'Austrasie. Il y a eu une révolte des seigneurs. Alors Gontran, puis son frère Childebert, resserrent de plus en plus leur alliance pour réduire plus efficacement ces rebelles-là. Alors, vous imaginez des saints qui sont constamment pris dans des moments où la civilisation chrétienne doit s'établir comment? Souvent par des pacifications armées, par des difficultés de toutes sortes. Et bientôt, les rebelles deviennent impuissants. Et tout le monde s'incline devant la volonté de Brunehaut, la mère de Childebert. Et dès lors, la paix intérieure règne dans le royaume des Francs, enfin. Le 28 mars 593, Gontran succombe à 68 ans. Saint Gontran meurt. Et Childebert recueille son héritage et prend donc sa succession. On dit que Saint Grégoire de Tours, ce grand biographe, là, a été d'une indulgence un peu excessive envers ce roi, qu'il nomme souvent là, dans les textes qu'il a laissés, qu'il nomme à toute occasion le bon roi Gontran. Il y a des auteurs qui se plaignent de ça, en particulier Lavis dans l'Histoire de France, dans le tome de Mai. Pourtant, si ce roi de Bourgogne, Saint-Gontran, est tombé dans des fautes, même à un âge avancé, j'ai le sentiment avec bien des historiens que il a peut-être pas toujours marqué de façon extérieure un esprit de pénitence, mais il faut reconnaître qu'il y a en lui des qualités suffisantes pour servir de base à un certain culte que l'Église lui a rendu. Il ne faut pas oublier que Gontran, qui était un laïc, quoi, avait une foi vive, une grande générosité. Il avait aussi, à une époque difficile, beaucoup de déférence à l'égard des évêques, ce qui n'était loin d'être toujours le cas, hein. Il reconnaissait chez les évêques ce pouvoir divin qui vient de Jésus-Christ. Il avait aussi, c'est ce qu'on rapporte à plus ou moins, le don des miracles. Donc, comme je vous ai dit au début, c'était un pécheur comme le roi David. Il a la grâce, et c'est une grande grâce, d'effacer ses fautes par ses jeûnes. C'est le temps d'y réfléchir pendant cette semaine de la Passion et la semaine sainte. Hein? Donc des jeûnes et des veilles aussi. Quand vous vous réveillez la nuit, profitez-en, priez. Et il a pratiqué aussi de larges aumônes, était très généreux. Il veut paraître aussi comme le maître de ses états. Mais surtout, ce qu'il désire, il veut être le pasteur et le père de son peuple, justement à une époque où c'était très rare. La piété, d'ailleurs, chez lui, c'est le principal fondement de sa politique comme roi, comme homme politique, finalement. Il se montre un ardent défenseur de l'honneur. Puis aussi, des immunités de l'Église. L'Église avait des droits acquis et il les respectait, au point souvent d'exposer sa propre vie contre certains seigneurs et certains hommes qui avaient beaucoup de pouvoir. Il honore aussi les bons évêques. Il recourt à leurs conseils. Et lui, un roi, il va prendre conseil auprès des évêques. Ce serait peut-être pas une mauvaise chose si nos premiers ministres, nos ministres, à l'occasion, allez voir les bons évêques, hein, c'est bien, j'ai bien dit les bons évêques, hein, pour prendre conseil. On dira que ce serait pas sage, mais ça peut se faire d'une façon non officielle. Il est peut-être d'ailleurs le seul de son temps à tenir compte des règles pour l'élection réglementaire ou canonique des évêques. Il se montre difficile aussi, puis très délicat dans le choix des sujets, comme on le voit dans la nomination de Sulpice Sévère au siège de Bourges, là, qui est fêté, lui, le 29 janvier. Il a appuyé de toute son autorité les ordonnances des évêques pour rétablir la discipline. Bien, il fait rassembler divers conciles. Il en a organisé à Lyon, à Chalon-sur-Saône, à Mâcon, à Valence. Comme on voit, il était très respectueux et très favorable à l'Église. Il a un profond respect, d'ailleurs, pour le droit d'asile. C'était nouveau et très important, hein? Vous savez ce que c'est que le droit d'asile? Mais c'est pas absolument nouveau, mais je veux dire, de le respecter à ce point. C'était autrefois le droit, on peut dire, en vertu duquel un individu qui était poursuivi pouvait se réfugier dans certains lieux privilégiés, en particulier dans les églises, les chapelles, les monastères. Et alors il s'y trouvait là, à couvert de toute poursuite. On pouvait pas le poursuivre. Il respectait ça. Et les généraux qu'il a envoyés en 586 contre les Visigoths d'Espagne, bien, ils avaient été entièrement battus en Espagne. Les Visigoths, qui venaient d'Europe centrale, s'étaient réfugiés en Espagne au 5e siècle. Mais ils ont été battus, alors ils ont cherché un asile, justement, dans la basilique de Saint-Symphorien d'Autun, en Bourgogne. Autun, il faut aller voir ça, c'est une belle basilique, là. Et ils voulaient éviter, évidemment, la colère de leur prince Gontran. Mais Saint Gontran, qui vient à Autun pour la fête de Saint-Symphorien, rencontre donc les généraux, et les généraux sont autorisés à paraître en sa présence. Et après un discours sévère, mais il les menace, mais il leur fait grâce de la vie, puis se contente d'en destituer quelques-uns. Alors Saint Gontran se distingue donc surtout par aussi non seulement sa bonté, mais aussi sa générosité. Les fondations, il donne plusieurs domaines immenses au monastère de Saint-Symphorien d'Autun, puis à celui de Saint-Bénigne. Saint-Bénigne, c'est un nom qu'on va voir bientôt, parce que Bossuet, dont je vais vous parler, s'appelait Jacques Bénigne. Bossuet, il y a plus de 10 Saint-Bénigne, c'est un curieux nom. À Dijon, ça, le monastère de Saint-Dijon, il donne là. Il établit dans ce dernier monastère à Dijon la psalmodie continuelle. Oui, continuelle, 24 heures par jour, sur le modèle d'un autre monastère qui était à Agone. Il fonde le monastère de Saint-Marcel de Chalon. Il bâtit à Genève la fameuse basilique Saint-Pierre qui est maintenant entre les mains des protestants. J'y suis allé en 1950. À ma grande surprise, il a fallu payer pour aller visiter cette basilique. Je comprends pas. J'espère que les protestants ne font plus payer pour visiter cette église. Et on voit d'ailleurs la place où était l'hôtel, mais c'est rasé. Il n'y a plus d'hôtel. Du moins, c'était comme ça en 1950. Il donne remenée à l'église de Mâcon, puis il réunit différentes abbayes. Il donne même le désert des Vosges au fameux moine irlandais Colomban pour y fonder la grande abbaye de Luxeuil, dont il n'y a plus que des ruines. Quand on va à Luxeuil, les bains, là, en Haute-Saône, dans le Jura, il n'y a plus que des ruines. Il a fondé ça en 585, d'autres disent 590. Alors, il rend hommage à des reliques de Saint-Jean-Baptiste qui sont apportées d'Alexandrie par Saint-Thècle. Il décide de donner un témoignage de sa dévotion envers le cousin de Jésus, Saint-Jean-Baptiste. Il fait construire dans la ville de Maurienne une église pour recevoir les reliques de Saint-Jean-Baptiste. Quand elle est achevée, il invite l'archevêque de Vienne. Vienne, c'est au sud de Lyon, là, c'est pas Vienne en Autriche, pour faire la consécration. La Maurienne, cette ville, avait alors été détachée de la métropole de Turin, ça faisait partie de Vienne. Quelques années après, on sait que Gontran a délivré cette province de l'incursion des Lombards qui arrivaient d'Italie, du nord de l'Italie. Alors il s'est battu, puis il s'est battu pour la justice et le bonheur de ses peuples. En 580, toutes sortes de fléaux se sont abattus sur les états de Gontran. Il y a des tempêtes, des incendies, des inondations, des tremblements de terre. Puis finalement, c'est une dysenterie contagieuse épouvantable et Gontran veut que l'on prenne soin particulier des malades de son royaume. Puis il passe des nuits entières. Il jeûne, il soigne, il s'offre à la justice de Dieu comme victime. Vous savez, on s'imaginait que Dieu avait besoin de victimes dans ce temps-là, comme si ça faisait plaisir à Dieu de voir des gens qui souffrent. Ce qu'il veut, c'est l'amour. Hein. Alors sa foi s'accroît. Sa foi devient de plus en plus grande. Le corps de Gontran a été enseveli dans l'église Saint-Marcel de Châlons. Il demeure longtemps, mais les Huguenots l'ont ravagé. Ils ont ruiné tout le tombeau durant les guerres de religion. Hein. Les Huguenots, les protestants voulaient tellement au saint. On ne peut sauver que le crâne qui est conservé plus tard dans un reliquaire d'argent. Et finalement, bien, le nom de Gontran figure toujours dans le martyrologe à la date du 28 mars. Et c'est passé dans l'histoire maintenant et on peut célébrer Saint Gontran. Donc en ce 28 mars, nous poursuivons non pas avec Saint Gontran, mais maintenant avec une femme, une laïque encore comme Saint Gontran, la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé. Une veuve décédée en 1414. C'est une vie d'aventure, une vie étonnante. Jeanne-Marie, et j'ai oublié de m'identifier, Raymond Beaugrand-Champagne. Vous êtes à l'écoute de Radio Ville-Marie à Rencontre spirituelle. Diffusée tous les jours du lundi au vendredi à 11h, de 11h à midi. Et le soir, c'est repris à minuit, de minuit à 1h. Donc Jeanne-Marie de Maillé, M-A-I-2-L-E, accent aigu, Maillé, est née au château, une noble, au château de La Roche, dans le diocèse de Tours. Elle a 11 ans, quand une nuit de Noël, la Sainte Vierge lui apparaît. Bon, ça commence drôlement, hein? Mais c'est une vie étrange et merveilleuse. Vous verrez, ça a été écrit d'ailleurs par son directeur de conscience, un franciscain, le frère Martin de Bois-Gautier, gardien des franciscains de Tours. Et c'est pas n'importe qui, il était gardien, enfin, si vous voulez, supérieur du couvent de Tours, qui était un important couvent franciscain. Alors, je rapporte donc ce que lui a écrit au 15e siècle. Donc, pendant une nuit de Noël, la Sainte Vierge lui apparaît. Et chose étrange, elle lui présente son fils. Et elle lui recommande de méditer souvent sur les souffrances de la passion. Ça nous est jusqu'à un certain point demandé au 20e siècle. Quand on y pense, la découverte par la photographie du Saint-Suaire de Turin en 1898, est-ce que c'est pas un appel à nous du 20e siècle de méditer sur les souffrances de la passion comme autant de preuves de l'amour de Dieu pour nous? Il ne s'agit pas de tomber dans le morbide, il s'agit d'entrer dans le cœur de Jésus, dans ses plaies, en reconnaissant tout l'amour. Alors donc, la Vierge lui recommande, dit-on, de méditer souvent sur les souffrances de la passion. Et Jeanne-Marie répond par l'entière donation d'elle-même à Jésus. Elle ressent dans son âme un accroissement d'amour pour Jésus souffrant. Elle veut le consoler. Il y a des beaux livres modernes qui disent « Jésus souffre-t-il ?» La souffrance de Dieu. Mais oui, il y a une grande souffrance dans le cœur de Dieu devant notre indifférence, notre façon d'agir vis-à-vis de lui, et vis-à-vis surtout du prochain, ce qui le blesse peut-être davantage, tellement il aime les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards, les enfants à naître que nous tuons, que nous jetons. Alors, à la suite d'une grave infirmité dont elle est délivrée, grâce aux prières de sa mère, elle perd son père à ce moment-là. Alors, elle veut, bon, sans s'occuper des candidatons puis des sarcasmes de son entourage, elle veut s'appliquer à imiter Jésus-Christ. Alors, elle est donc résolue à garder tout d'abord sa virginité. Elle apprend, non sans trouble, que son tuteur, car son père est mort, n'oubliez pas, elle a un tuteur, c'est le seigneur de Montbazon.
Je vous ai dit, elle est dans le monde de la noblesse et de la richesse. Elle a donc un tuteur riche, un seigneur, qui veut la marier au baron de Silly, qui est très riche. Alors, elle n'y tient pas du tout. Elle redouble ses austérités, ses prières, pour écarter ce qu'elle considère comme un sacrifice. Peut-être que le baron n'était pas très beau, c'est peut-être ça aussi. En tous les cas, soyons sérieux. Et le jour des noces, bien, c'est changé en un jour de deuil, car le soir même des noces, son tuteur, ce seigneur de Montbazon qui l'a fait se marier, là, le vieux baron de Montbazon, eh bien, il rend son âme à Dieu, et les deux jeunes mariés, nouveaux mariés du jour même, sont quand même des grands croyants. Elle a épousé ce baron de Silly, elle a découvert qu'il était un grand croyant. Alors, ils sont pénétrés tous les deux, un peu à la façon bouddhiste, mais aussi à la façon chrétienne, dans un certain sens, du néant de la vie futile. Non pas que le mariage soit une vie futile, c'est pas ça que je veux dire, ni l'amour. Loin de là. Mais que derrière tout dans la vie, il faut que la présence de Dieu enrichisse tout ce que l'on fait. Comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, ramasser une épingle avec amour pour Dieu vaut mille martyrs. Hein. Tout doit être fait avec amour de Dieu. Alors ils sont pénétrés donc de ça, ils veulent aimer Dieu. Ils décident donc de vivre dans la continence et ils décident de se sanctifier. Et Jeanne-Marie, elle n'a que 15 ans à ce moment-là. Mais il faut dire aussi qu'on vit dans une époque tragique. Hein, c'est la guerre de 100 ans. C'est des événements épouvantables qui affectent le royaume de France. Alors les esprits sont peut-être un peu troublés. Mais je ne crois pas qu'il faille être troublé pour vivre dans la continence à l'intérieur du mariage. C'est exceptionnel, évidemment. Ce sont des grâces très, 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 très rares. Je vous rappelle que Jacques Maritain et Raïcha Maritain, parmi les gens les plus intelligents du XXe siècle, ont vécu ainsi. Et d'autres aussi ont vécu ainsi. C'est difficile à accepter et à comprendre dans cette fin du XXe siècle où la sexualité est portée au nu comme si c'était une nécessité quotidienne, pour ainsi dire. Alors, les événements épouvantables qui ravagent la France sont pour tous les deux une source de dures épreuves. Tout d'abord, le baron de Silly, son mari, est dangereusement blessé et prisonnier de qui ? Des Anglais, bien oui. Et les Anglais, qui sont exigeants, demandent énormément d'argent pour payer son rachat. Alors, elle paie, la famille paie. Et ça coûte extrêmement cher et ça réduit les époux, elle et son mari, à la misère. Puis en 1362, la maladie attaque le baron de Silly, son jeune mari, et il meurt. Elle est veuve. Alors là, les parents du baron, de son mari, quoi, prétendent que c'est à cause d'elle s'ils ont tout perdu leur bien, et si finalement ils songent à l'expulser du château de Silly et de l'acheter à la rue. En somme, ils préfèrent croire que c'est de sa faute à elle plutôt que de la faute des Anglais. Et pourtant, c'est bien la faute des Anglais, grand Dieu. Et la pauvre, bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé est jetée à la rue. Alors, pour servir Dieu avec plus de liberté, elle se retire à Tours, dans un petit logement voisin de l'église Saint-Martin, le fameux Saint-Martin de Tours, qui est si vénéré à Tours. Vous qui êtes allé à Tours, vous avez dû voir les ruines de la basilique Saint-Martin et tout ça, et tout l'amour qu'on a pour Saint-Martin à Tours. C'est absolument étonnant après 15 siècles. Il faut dire que c'est un saint fascinant, vous savez, c'est celui qui, à cheval, voyant un pauvre, prend son épée et tranche son manteau en deux pour en donner la moitié aux pauvres. Des malins ont dit qu'il aurait dû donner tout son manteau. Mais c'est pas très gentil à l'égard de Saint-Martin. Alors, cette église de Saint-Martin, donc, c'est son sanctuaire de prédilection. Et elle va, en particulier, à l'intérieur de cette église, vers la chapelle de Sainte-Anne. Tiens, nous qui avons ici au Québec une grande dévotion à Sainte-Anne, Sainte-Anne de Beaupré. mais ça y devient son oratoire. C'est là qu'elle pratique l'oraison, dont il a été longuement question hier, n'est-ce pas, quand je vous ai parlé du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus. Carme, n'est-ce pas, qui pratiquait l'oraison 2 heures par jour. Alors elle pratique elle aussi l'oraison longuement. Elle assiste aussi régulièrement à l'office qui est chanté au chœur, le jour et la nuit. Une partie de ses journées en plus est consacrée à ce qu'on appelle, dans le langage bien chrétien, les œuvres de miséricorde corporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La charité, l'égard des pauvres, le soin des malades, la caresse accordée à une tête brûlante, un sourire à un enfant, prendre la main d'un vieillard, s'approcher d'un sidéen et le consoler. Il n'y avait pas de sida dans le temps, évidemment. Alors elle va rendre service aux malades, jusque dans les léproseries. C'était les sidéens de l'époque, les lépreux. Et le soin qu'elle prodigue à l'un de ces lépreux fantastiques accomplit un miracle. D'un seul coup, il est guéri. Elle s'inquiète devant ces miracles. Elle ne perd pas de vue sa sanctification personnelle. Alors devant l'intérêt qu'on lui porte, bien s'impose des, comme on le faisait à l'époque et même encore récemment, ce qu'on appelle des macérations rigoureuses. Alors elle recourt aux ceintures de fer, aux cilices, aux disciplines. Elle couche sur la terre nue. Bon, j'ai rien contre coucher sur la terre nue. Quant au reste, je m'inquiète. Je m'inquiète devant ces pratiques d'autrefois. Je suis bien d'accord avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit souvent, je n'ai jamais fait pénitence, Thérèse l'Enfant Jésus. Elle s'est contentée d'accepter ce qui surgissait dans sa vie. Alors une maladie la réduit à toute extrémité. Et Jeanne-Marie de Mailly salue avec joie l'heure de la délivrance. Elle croit qu'elle va mourir. Alors elle souhaite vivre assez longtemps pour se dépouiller entièrement de ses terres et de ses domaines qu'elle possède encore. Et à la suite d'une prière dans laquelle elle fait à Dieu cette demande, elle se trouve complètement guérie et aussitôt, bien qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va trouver l'archevêque de Tours. Elle fait entre ses mains le vœu de chasteté perpétuelle. Puis, elle se rend dans sa famille pour y faire l'abandon de toutes ses possessions. Elle devient pauvre parmi les pauvres. Rentrée à Tours, elle est heureuse de se voir repoussée de tous et de mener une vie de réelle pauvreté. Elle passe ses journées dans les églises, elle mendie le soir un morceau de pain et se retire la nuit dans un taudis abandonné. Les religieuses de l'hôpital de Saint-Martin-de-Tours proposent à Jeanne-Marie de Mailly une place de servante dans leur établissement. Alors elle accepte de servir à l'hôpital. Et par esprit de renoncement et d'humilité, elle fait ça. Elle, qui était de famille très riche, noble. Alors on lui confie de préférence les emplois les plus pénibles, les offices les plus rebutants. C'est ce qu'elle désire, d'ailleurs. Mais les autres servantes de l'hôpital la prennent en aversion parce qu'elle a quelque chose de différent, probablement une certaine distinction naturelle, un certain raffinement. Alors les religieuses sont obligées de la congédier parce que ça crée des ennuis. Alors elle est sans abri, sans protection. Elle est itinérante, comme ces pauvres femmes qu'on voit à Montréal avec des sacs, là, puis qui fouillent dans les déchets. Mais elle est toujours résignée et confiante en Dieu. Alors elle va puiser auprès du tabernacle conseil, courage et consolation. C'est là souvent qu'on trouve conseil, courage et consolation, près du tabernacle. Alors elle est obligée de quitter Tours. Et Jeanne-Marie de Mailly accepte un asile que lui offrent les religieuses de Beaumont. Mais ses ennemis la poursuivent jusque dans cette retraite-là, puis l'obligent à l'abandonner. Alors, elle va se fixer dans un ermitage. Puis, elle vit en contemplative durant plusieurs années. Oui, plusieurs années. Mais c'est puis, ça va l'obliger à rentrer à Tours, où s'écoule la dernière partie de sa vie. Elle est donc revenue à Tours. Elle obtient des franciscains la permission de se retirer dans une espèce de bicoque ou un petit réduit, qui est voisin de leur couvent. Elle est alors âgée de 55 ans, ce qui était assez âgé à l'époque, beaucoup plus âgé qu'aujourd'hui. Elle devra en passer 27 sous la direction du frère Martin de Bois-Gautier, que je vous ai nommé tout à l'heure, le gardien des franciscains de Tours, son futur biographe. Alors cette époque marque le point culminant de la vie de la bienheureuse jeune Marie de Maillé. Dès lors, elle acquiert une espèce d'ascendant qui vient de sa vertu exceptionnelle. Ça exerce autour d'elle une immense influence. Ça se fait sentir, imaginez, jusqu'à la cour du roi Charles VI. Elle travaille en même temps, en toute ardeur, là, à la cessation de ce grand schisme d'Occident. Elle fait un peu comme Sainte Catherine de Sienne. C'est une laïque, une femme qui est féministe avant l'époque féministe. C'est une grande femme. Elle travaille à la cessation de ce grand schisme d'Occident. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, certains d'entre vous, mais vous savez qu'à l'époque, il y avait plusieurs papes. C'était un schisme qui divisait l'Église catholique. Ça a duré longtemps, 50 ans, de 1378 à 1429. Alors, il y avait là l'élection de plusieurs papes qui siégeaient simultanément à Rome, à Avignon et parfois ailleurs. Ça s'est terminé par la reconnaissance de Martin V en 1417, qui a régné, lui, 14 ans si je me souviens bien, et il a été le seul pape enfin. Il n'y a pas eu d'autres papes au même temps. Des antipapes, comme on dit. Alors, dans son nouvel asile, Jeanne-Marie de Maillé goûte un peu la tranquillité, mais ne diminue en rien ses pénitences. Alors, elle n'a qu'une pauvre cellule, elle mendie son pain de chaque jour, elle distribue même aux vieillards indigents les mets délicats que parfois des gens plus à l'aise lui apportent. Elle préfère ne pas y toucher, elle préfère les donner à des vieillards qui n'en ont jamais mangé, elle qui a connu la grande nourriture dans son château. Elle assiste à tous les offices du jour et de la nuit. De la nuit, c'est les matines qu'on célèbre souvent à 2 heures de la nuit. Après l'office, d'ailleurs, elle prolonge ses oraisons devant le tabernacle. Et c'est toujours, évidemment, la passion de Jésus qui est le sujet de ses méditations. J'ai justement ici, dans un petit livre des oraisons de Sainte Gertrude, une petite oraison de Sainte Gertrude où elle dit « Ô Dieu de toute miséricorde, pour tous les péchés, toutes les iniquités, dont mon corps et mon âme ont été les instruments, je vous offre cette douleur sans mesure que votre divin Fils a endurée lorsqu'en lui arrachant avec une cruauté inouïe ses vêtements qui étaient fortement collés à ses plaies, on a rouvert ainsi toutes ses blessures. Oh, je vous offre cet inhumain, ce cruel martyr qu'il a supporté lorsque ses mains et ses pieds ont été attachés à la croix avec une douleur qui lui fendit le cœur. Oh, rappelez-vous, ô le plus tendre des pères, dans quel excès de misère et d'humiliation votre Fils a été couché sur la croix, et comment dans son extrême, dans son indicible douleur, il ne savait plus où reposer la tête. Rappelez-vous combien de larmes ses yeux ont versées, combien de soupirs se sont échappés de son cœur, combien de gouttes de sang ont coulé de ses blessures, combien de douleurs, combien de frayeurs mortelles ont cruellement pénétré jusqu'au fond de son cœur. C'est beau, Sainte Gertrude. Oh, je lis ça depuis mon adolescence, même avant. Ça ne m'a jamais quitté de ma vie. C'est un vieux, vieux livre. Oh, je suis peut-être trop sentimental, mais j'aime ces lectures. J'aime ces méditations. Et les prières de Jeanne-Marie, ses exhortations, ont péri de nombreuses conversions, et pendant le séjour du roi Charles VI à Tours, elle sollicite, chose étrange, la grâce de tous les prisonniers. Alors le roi accède à sa demande, mais comme le ministre de la Justice lui se presse pas plus que ça à les mettre en liberté, ben elle obtient, c'est étrange, elle obtient par ses prières que les portes de la prison s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous direz, ça n'a pas de sens, mais lisez bien les Actes des Apôtres, vous vous souvenez, la libération de Saint-Pierre, on appelle ça Saint-Pierre au lien, Saint-Pierre est libéré de sa prison, comme ça, les portes s'ouvrent. Alors, la vue des criminels que l'on conduisait au supplice cause aussi à Jeanne-Marie une profonde douleur. Elle obtient par ses prières que l'exécution de l'un d'entre eux n'ait pas lieu. Et elle finit par le faire mettre en liberté. Bien oui. Éclairée par Dieu, elle connaît à l'avance plusieurs événements, comme l'arrivée à Tours du roi Charles VI. La reine de France, Isabeau de Bavière, veut, pendant 7 jours, toute une semaine, bénéficier de ses entretiens avec elle. Elle veut lui parler. Alors les dames de la cour qui entendent tout ça font finalement le sacrifice de leurs plus riches vêtements. Elles se convertissent. Ça rappelle les conversions sous Savonarole, dont je vous parlerai un jour, ce moine de Florence, hein, mort sur un bûcher. Nous l'avons brûlé, nous les catholiques, mais vous verrez, on songe à le canoniser actuellement. Comme quoi l'Église catholique est peut-être une des seules institutions qui sait revenir sur ses erreurs et qui sait canoniser des gens qu'elle a mis à mort dans des époques où on faisait des choses abominables comme ça. Que voulez-vous? C'était la coutume de l'époque. Il faut se placer dans le temps. Alors, à cette fin du XIVe siècle, où toutes les jambes gémissent sur le schisme des papes, Jeanne-Marie fait preuve d'un grand amour de l'Église. Ça ne fait pas détester l'Église, ça. Puis Dieu daigne lui en révéler la fin prochaine de ce schisme. Elle n'a pas hésité, d'ailleurs, à quitter sa retraite pour aller porter ses conseils aux princes, aux rois, à Tours, à Angers, à Paris. Elle voyage, hein? En récompense des démarches qu'elle a faites comme Sainte Catherine de Sienne, elle sait par révélation que la prochaine paix de l'Église sera amenée par l'élection d'un pape franciscain. Ce sera Martin V. Alors le désir du martyr qui l'habite mérite à Jeanne-Marie une dernière faveur. Je vous la raconte parce que c'est très étrange, c'est pas nécessaire d'y croire. Vers la fin de l'année 1412, elle se trouve à Châtellerault, dans l'église de Saint-Jacques. Puis là, elle médite sur ce qui est arrivé à Saint-Étienne. Vous savez, le premier martyr, je vous ai tout raconté ça à la fin de décembre. Alors son... qui a été lapidé. Alors son âme s'enflamme à la pensée de ses souffrances. Elle exprime à Dieu son regret de ne pouvoir, évidemment, subir le même supplice. Par amour pour lui, évidemment, puis pour son église. Alors soudain... des mains invisibles, dit-on, oui, font pleuvoir sur elle une grêle de pierre, et alors son corps n'est pas ensanglanté, heureusement, mais il est couvert d'une sueur abondante, elle éprouve ainsi les tourments de la lapidation, comme Saint-Étienne. Mais elle survit pas longtemps à ce martyr surnaturel et absolument fantastique, qui est raconté par son biographe. Et le 28 mars 1414, âgée de 82 ans, elle s'endort, enfin, du sommeil des justes. Elle est ensevelie, on la revêt de l'habit de Sainte-Claire, des Clarisses fondées par Sainte-Claire, la grande amie, comme vous savez, de Saint-François d'Assise, dans l'église des Franciscains de Tours. On dit qu'elle aurait été tertiaire. Le tombeau de Jeanne-Marie de Maillé est devenu aussitôt après sa mort l'objet de la vénération publique. Alors là, les pèlerins sont venus en foule. Ils implairaient son intercession. Là, les guérisons obtenues sont nombreuses et extraordinaires. Vous vous étonnez? Ça arrive aujourd'hui encore. Je vous l'ai raconté, je vous en raconterai d'autres, de choses qui arrivent au XXe siècle. Les guérisons obtenues sont nombreuses, donc, extraordinaires. Et par ordre de l'archevêque de Tours, on commence une enquête le 11 avril 1414, mais le procès d'information qui est terminé l'année suivante est envoyé en Avignon, là, auprès du pape. Il y avait un pape à Avignon, je vous l'ai dit. Là, les circonstances malheureuses de ce schisme des papes avec les antipapes et tout ça empêchent le procès d'aboutir. En 1562, après 150 ans, quoi, les protestants, les huguenots, ont envahi le couvent des frères mineurs à Tours. Ils ont ravagé, ils ont dispersé les restes de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé. En 1545, les temps deviennent meilleurs, heureusement. La paix se fait entre protestants et catholiques. Aujourd'hui, nous sommes fraternels avec les protestants. Heureusement, tout est passé, c'est fini ce temps-là. Et le père gardien du couvent de Tours, bien, fait ouvrir le tombeau. On ne retrouve que quelques ossements. Là, le culte se continue jusqu'en 1791. Mais là, c'est la Révolution française et l'église est dévastée encore. Et le bâtiment est converti en usine, démoli finalement. Mais le culte de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé se perpétue. Puis le 27 avril, il y a un peu plus d'un siècle, en 1871, le pape Pie IX a confirmé le culte rendu de temps immémorial à la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé. La fête en est concédée à 6 diocèses, Tours, Bourges, Le Mans, Angers, Laval et Poitiers, et à toute la famille des franciscains. Alors je souhaite une bonne fête à tous les tertiaires, ou les membres du troisième ordre de Saint-François, puisqu'on dit qu'elle aurait été tertiaire. Ceci termine donc la vie de Saint-Gontran et de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillet.